auditeurs de Radio Courtoisie, nous souhaitons la bienvenue à tous les auditeurs qui nous rejoignent en ce libre journal des amitiés françaises. Je rappelle que nous avons la chance d'avoir au standard Laurent, qui est prêt à prendre tous vos messages, vos remarques, que nous soumettrons à notre invité. Je rappelle le téléphone de la radio à cet effet, 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Surtout, n'hésitez pas à profiter de la présence de Laurent, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Nous abordons maintenant donc la deuxième partie de cette émission, toujours en direct. En 70 après Jésus-Christ, l'empereur romain Titus et ses troupes rasent Jérusalem et détruisent son temple et interdisent la ville aux Juifs. Au-delà des souffrances et des épreuves épouvantables et des déportations, cet événement représente une date clé et charnière de l'histoire de la religion juive. En effet, le temple qui était servi par les Sadducéens, à travers notamment les nombreux sacrifices qui étaient réalisés, le temple ne peut plus être l'épicentre de la religion juive puisqu'il a disparu. Comment la religion juive survivra-t-elle à sa destruction? Comment se transforme-t-elle? Qui succède aux Sadducéens? Les héritiers et des pharisiens, justement, vont prendre le relais de ces Sadducéens en transposant cette religion, la religion du temple, en une religion synagogale où les écoles prendront une importance capitale. Cette religion juive, appelée rabbinique, pour assurer justement son avenir, sera conduite à écrire un certain nombre de lois, d'enseignements, mais aussi de débats, notamment à travers la tradition orale qui sera donc couchée par écrit. C'est ainsi que naîtra un texte fondamental qui constituera le cœur de la religion juive de la diaspora, le Talmud. Justement, ce thème du Talmud constitue le thème principal de notre émission ce soir, dans la suite des précédentes qui étaient consacrées à l'histoire de la religion juive. Ce soir, nous allons particulièrement parler justement de la création du Talmud et de sa réalité. Qu'est-ce que c'est que le Talmud? Et bien entendu, de la manière dont il va constituer le cœur de la religion juive pour l'avenir. Et pour nous raconter ce qu'est le Talmud, eh bien, nous avons le plaisir, comme à l'habitude, de recevoir ce soir Hervé Rébi. Hervé Rébi, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu en direct à ce micro, en ce dimanche de juillet. Nous vous recevons toujours avec beaucoup de plaisir pour raconter justement cette histoire si longue, mais aussi complexe, hein, qui est celle de la religion juive. Et donc ce soir, nous en sommes rendu à une étape très importante qui est celle Talmud, de la création du Talmud. Alors, je vous présente à nouveau aux auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes cardiologue, vous êtes président du Centre culturel juif de Bordeaux, qui est le centre Yavneh. Vous nous aviez expliqué d'ailleurs l'importance de ce mot Yavneh, puisque la première, je crois si j'ai bien retenu ma leçon, la première école juive rabbinique, en quelque sorte, qui, après la destruction du temple, eh bien, elle se trouve à Yavneh, enfin elle s'appelle Yavneh en tout cas, et elle n'est plus à Jérusalem, puisque Jérusalem est interdite, et voilà, elle est caractéristique de ce qui va orienter la religion juive pour l'avenir après justement la destruction du temple. Vous êtes aussi le cofondateur des Amitiés judéo-musulmanes de Bordeaux, vous êtes membre de l'Amitié judéo-chrétienne de France. De quoi s'agit-il d'ailleurs, cette Amitié judéo-chrétienne de France?
Bien, pardon, merci beaucoup de me recevoir à nouveau. Deux mots, l'Amitié judéo-chrétienne est une association qui est née après la Deuxième Guerre mondiale sur l'impulsion de gens de bonne volonté, hein, dont Edmond Flegg à l'époque, qui s'était chargé de nouer le lien, le fil du renouer un dialogue avec les chrétiens et qui entendait rapprocher ces deux traditions. Et on peut dire que l'amitié judéo-chrétienne de France, qui va également avoir d'autres branches dans d'autres pays, va très probablement constituer un tremplin pour Vatican II, en tout cas pour la part de ce que Vatican II va apporter sur le plan de la refondation des relations du catholicisme romain avec les autres religions, et en particulier avec le judaïsme. Et c'est cette après-guerre qui va renouer véritablement une amitié. Je pense qu'elle porte bien son nom, bien qu'elle soit un petit peu aujourd'hui, vieillissante un petit peu, cette amitié. Elle a pris d'autres formes, des formes qui touchent à des activités, à des initiatives, et pas simplement à des rencontres de gens de bonne volonté. Il s'agit d'un véritable enjeu, hein, de refonder, de resserrer les liens entre juifs et chrétiens dans l'antiquité de leur origine et de leur proximité d'origine. Voilà, donc il était tout naturel. Moi, j'ai rencontré l'amitié judéo-chrétienne à Bordeaux quand j'avais 18 ans, et qu'il m'est arrivé de parler devant Jacques Ellul, un grand intellectuel protestant de Bordeaux, professeur d'université, tout ça. Et ça a été une grande joie et un grand travail. Et puis ensuite, avec d'autres figures qui ont traversé Bordeaux et qui ont traversé également les amitiés judéo-chrétiennes, comme notamment la figure de notre regretté Armand Abbé Cassis, décédé il y a quelques mois, et qui a beaucoup œuvré aussi dans le sens de ce dialogue-là. Voilà.
L'objectif, c'est de mieux se connaître, c'est d'échanger, d'arriver à des compréhensions communes. Quel est le...
Oui, c'est ce que vous dites, mais ça c'est assez global, si vous voulez. Mais ça prend des formes essentiellement de rencontres et de débats sur des thèmes qui sont débattus par les uns, par les autres, devant les uns et devant les autres, et qui sont souvent des débats assez contradictoires, mais qui mettent en avant, au contraire, la nécessité d'une part commune, hein, et de ne pas oublier l'idéal de cette discussion étant de retrouver une fraternité, si on peut dire encore, même si 2000 ans ont passé, beaucoup de choses se sont passées dans le non-dialogue judéo-chrétien, et c'est essayer de rabibocher d'une certaine manière, essayer de recoudre des pans entiers de cet oubli, hein, de cet oubli. On a oublié qu'on était en pays chrétien, on était en pays judéo-chrétien au départ, et puis ensuite avec des difficultés, bien sûr, que l'histoire dont vous avez parlé, l'histoire s'est chargée au fur et à mesure, avec des contentieux qui aujourd'hui disparaissent parce qu'ils sont justement le fruit de cette bonne volonté, si vous voulez, de ne pas en découdre, mais au contraire de recoudre, si on peut dire les choses, hein. Pas d'en découdre, mais de recoudre.
Quel genre de débat, par exemple, voyez-vous citer?
Écoutez, ce sont des débats qui touchent bien sûr à la théologie, mais qui touchent aussi aux grands thèmes. Il est bien évident que si on parle, par exemple, du repos hebdomadaire, les juifs et les chrétiens n'entendent pas la même chose, surtout 2000 ans après. Donc c'est tout un parcours qu'il est important de reprendre pour comprendre à quel moment les choses ont divergé, sur quelles bases elles ont divergé, est-ce que ce sont des bases scripturaires, est-ce que ce sont des bases populaires, est-ce que tout ça n'a pas été organisé ou orchestré par des volontés politiques, et voilà, ce sont ces choses-là.
Oui, c'est extrêmement concret, en effet. Alors vous évoquez le repos du dimanche pour les chrétiens et le Shabbat.
Je vous raconter une...
Oui, justement, c'est ça.
Non, juste une petite anecdote.
Oui, nous vous écoutons.
Quand j'étais en première... au lycée Montaigne à Bordeaux, certains se souviendront de ce lycée fameux. Et notre prof d'anglais nous avait fait lire un texte concernant le retour, je ne sais plus de qui, de texte d'ailleurs, le texte en anglais, c'était le retour d'un jeune soldat conscrit qui rentrait chez lui un dimanche matin pour se reposer auprès de sa mère et de ses parents. Et sa mère tenait un pub. Elle tenait un pub. Et voilà que, bon, il pose ses affaires. Le texte dit, en passant comme ça, tout naturellement, dit... il était fatigué, mais il n'a pas résisté à l'envie de jouer du piano dans le pub. Le pub était fermé, nous étions Sunday, nous étions dimanche, et il n'a pas résisté à l'envie de jouer du piano. Il se met au piano, et la mère lui dit « Oh Joe, you forget that it's Sunday. Joe, tu oublies que c'est dimanche. Personne n'a rien compris dans la classe. Sauf peut-être le juif qui était là. » Et qui se rappelait que probablement, oui c'est vrai, dans l'anglicanisme continuait d'exister cette notion du repos hebdomadaire, que le repos touchait également les activités culturelles, les activités de musique, les matchs de foot n'ont pas lieu le dimanche en Angleterre, ils ont lieu le samedi. Oui, donc...
Ils vont pourtant jouer la finale de la Coupe du Monde dimanche.
beaucoup de choses changent. Non, mais dans la littérature...
Pardon, je dis une grosse bêtise, oui, non, c'était pas dimanche, ils étaient en demi-finale.
Voilà, exactement.
J'ai dit une bêtise.
Ils auraient bien voulu être en finale, d'ailleurs.
C'est
pour expliquer que jusqu'au 19e siècle, bien la notion du repos sabbatique ou du repos hebdomadaire, puisque ce n'était plus un repos sabbatique, continuait de perdurer dans certaines traditions chrétiennes, chose qui avait largement disparu du catholicisme.
D'où vient le fait que ce soit un repos à des jours différents?
Ah ben ça, c'est une longue histoire théologique très complexe. Hein. C'est qu'en fait, le dimanche n'est pas le jour... de repos, c'est le jour d'après, c'est le huitième jour qui est fondé sur une lecture du prophète Malachi qui parle du jour d'après, hein, si vous voulez, donc le jour de la rédemption, si vous voulez, intervient le jour après le Shabbat. Donc au départ, ça, c'est le jour du Seigneur, et non pas le jour de repos, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, d'ailleurs ça continue d'être appelé comme ça, mais ensuite... Des dispositions politiques ont fait en sorte que le jour du Seigneur corresponde à un jour de repos. On n'a pas repris le samedi, probablement pour se distinguer un peu des Juifs. Et les Juifs sont restés attachés au Shabbat, c'est-à-dire au septième jour. Il faut bien savoir que le dimanche n'est pas, dans la tradition hébraïque, le dimanche, c'est pas le premier jour, c'est pas le huitième jour, ou c'est le premier jour de la semaine, alors que, bon, dans la tradition chrétienne, on a fini par déplacer le premier jour au lundi. On est déplacé au lundi, et le dimanche est devenu la fin de semaine. Hein. Donc, il y a un léger décalage, mais en fait, c'est parce que on a changé de paradigme. Le jour du repos est devenu le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour, évidemment, de son avènement.
Et je précise, Hervé Rébi, que vous êtes aussi enseignant en pensée juive et en herméneutique talmudique, que vous êtes vraiment la personne idoine ce soir hein, pour nous parler du Talmud, si vous voulez bien. Je vous propose tout d'abord que vous nous résumiez ce qui s'est passé lors de la destruction du Deuxième Temple par les troupes romaines et ses conséquences très directes. Et puis nous rentrerons effectivement dans le sauvetage du judaïsme et la naissance du judaïsme rabbinique qui est une conséquence en effet elle aussi de la destruction du deuxième temple.
Dans un premier temps, il est important de comprendre l'histoire telle qu'elle se déroule dans cette terre de Judée de l'époque et qui agite beaucoup l'Empire romain. Et l'Empire romain a soumis beaucoup de peuples autour de la Méditerranée et puis à la manière du village d'Astérix, il y a un petit territoire qui résiste toujours et encore à la soumission aux légions romaines. C'est la Judée. Et donc, on envoie des troupes avec à leur tête Vespasien, puis ensuite Titus, qui est le fils de Vespasien, lorsqu'il sera nommé empereur. Il se trouve que cette période-là correspond à des périodes d'intense activité politique en Judée. Il y a des partis politiques, il y a de l'agitation, il y a aussi de la rébellion, et il y a, on pourrait résumer, la grande question qui se pose à ces juifs de l'époque, qui ne s'appellent pas encore juifs. Hein. Juif est un terme anachronique. Hein. On dit juif, bien sûr, mais ce sont des judéens, ce sont des bnei Israël, des enfants d'Israël. Et à cette époque-là, la grande question, c'est de savoir ce qui doit nous régir, c'est la loi de l'État ou si c'est la loi de Dieu. Voilà. Et donc, sur cette grande question, va se fracturer le peuple et se constituer en parti. Les uns disant, on prend le parti de Rome, hein, puisque c'est le dominateur pour l'instant, et puis quand les choses s'amélioreront, on essaiera de négocier. Les autres disent non, il faut résister, parce qu'il y a la question centrale dans le judaïsme, y compris de l'époque, la question centrale de l'idolâtrie. Or, se soumettre à Rome, c'était accepter la mise en place d'un système théologique avec des idoles. Or, toute l'histoire juive est fondée d'abord, il faut le savoir, c'est fondamental, sur le refus de l'idolâtrie. Et le grand événement, bien sûr, de cette idolâtrie détruite à jamais, c'est le veau d'or. Hein, c'est l'épisode du veau d'or. Donc même si ça représente un événement probablement anachronique, mais enfin, en tout cas, c'est un texte qui fonde, si vous voulez, la radicalité du judaïsme dans une espèce de monothéisme non représenté. L'interdiction de la représentation étant un des paramètres les plus essentiels pour comprendre l'émergence, si vous voulez, de la religion juive. La non-représentation et donc l'interdiction de représenter Dieu, de l'anthropomorphiser, même s'il reste encore des éléments dans la Bible, où on parle, Dieu parle, Dieu, le doigt de Dieu, la main, le bras fort et tout ça, ce ne sont que des expressions, bien sûr, qui sont de strictes métaphores. Mais en tout cas, Dieu n'est pas, d'une certaine manière, le judaïsme a essayé d'épurer toutes les tentations, si vous voulez, de considérer Dieu comme comme adaptable, si vous voulez, à la matérialité. Est-ce qu'il pouvait se transformer comme Zeus se transformait, un coup en arbre, un coup en berger, un coup... Dieu n'était pas celui-là. Dans l'idée des Juifs, Dieu était un principe créateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Boré Haolam, c'est-à-dire le créateur du monde, et que la Bible, la Genèse, commence sur cette notion de la création, c'est Dieu créateur, et ce Dieu créateur est par définition, de manière absolument irrévocable, est un Dieu non représentable. Donc cette idolâtrie, ce refus de l'idolâtrie va se heurter à des légions romaines qui étaient bien sûr polythéistes, mais où la tradition chez les Romains, lorsqu'ils soumettaient un peuple, c'était souvent de monnayer, si vous voulez, leur suprématie, en échange de l'inclusion des dieux locaux dans le panthéon romain. C'est-à-dire que c'est ainsi qu'on voit apparaître, au fur et à mesure de l'histoire romaine, les Grecs ont aussi fait un petit peu ça, mais bon, surtout les Romains, au fur et à mesure de leur conquête, ils romanisaient des dieux locaux qui devenaient des dieux, les dieux orientaux devenaient des dieux romains, et donc on partageait les dieux, ça voulait dire on acceptait le diktat de Rome, mais en même temps, comme on avait les mêmes dieux, on devenait membre de cet empire romain qui assurait à la fois sécurité, protection, mais les judéens n'ont jamais accepté cette façon de voir les choses, d'abord pour la question de l'idolâtrie et en même temps pour la question de ce qu'ils pensaient représenter la quintessence alors de leur existence et non pas de leur foi, de leur existence, c'est-à-dire une certaine manière de voir le monde, c'est-à-dire de voir un monde qui ne s'arrêtait pas aux bornes de cette vie, avec une manière de considérer, non pas que c'était le monde n'était pas un temps de passage, et puis on partait vers les ténèbres, on partait sur la barque de Charon, se perdre dans les limbes, mais où on croyait à la vie éternelle. Et donc il y avait quelque chose de fondamentalement réfractaire à la présence romaine, à la pensée romaine. Alors peut-être pas à la philosophie grecque ou à la philosophie romaine, contrairement à ce qu'on peut lire assez fréquemment, les Juifs n'ont pas été imperméables ni à la philosophie grecque, ni même, il y a des morceaux entiers, lorsqu'on veut bien accepter de les lire avec honnêteté intellectuelle, qu'on s'aperçoit qu'il y a des influences croisées, hein, bien entendu. Les Juifs et les Grecs et les Romains ont entretenu des relations très importantes sur le plan de la pensée. Ça va avoir des conséquences, d'ailleurs, puisque, si je peux continuer de développer, lorsque va intervenir, l'Alali, hein, c'est-à-dire la destruction du deuxième temple, en 70 après Jésus-Christ, le mouvement rabbinique n'est pas encore bien assis. Les maîtres de l'époque sont ou les précurseurs des rabbins et n'ont pas de titre de rabbin, comme Hillel notamment, Hillel et Shammai, qui sont considérés comme des grands docteurs de la loi, mais qui ne sont pas rabbins. Le rabbinisme va naître d'une nécessité d'institutionnaliser la structure de transmission du judaïsme et de la transmission de la loi. Parce que mais dans quel but ? Est-ce que c'était pour renforcer l'observance ? Ou est-ce que c'était, et je le pense personnellement, c'était pas tellement le problème de l'observance qui était en cause, c'était le problème de savoir qu'est-ce qui allait se passer lorsqu'à l'horizon se profilait la destruction, et donc, parce que la destruction voulait dire que les Romains ne feraient pas de Pax Romana avec les Juifs, avec les Judéens. Ils feraient de cette terre une terre salée, ils répandraient du sel pour la considérer comme stérile. Et il y a des jeux de mots en latin entre sancta, sanguinata, oui. Et donc il y a cet événement là de la destruction du deuxième temple qui intervient en plein milieu de discussions très très importantes entre des gens qui s'y connaissent d'une certaine manière, mais c'est pas le propre du peuple, c'est le propre de certaines couches savantes de l'époque qui veulent essayer de préserver. Je vais vous donner un simple exemple. Voilà. Si le bateau est en train de couler, il s'agit de mettre dans les barques le plus de choses que l'on peut récupérer. Eh bien, le judaïsme de cette époque-là, entre 0 et 70, si vous voulez, ou on peut dire moins 100 jusqu'à plus 70, a essayé de préserver le maximum de la mémoire. Ce n'est pas pour rien qu'à cette époque-là, des bergers juifs vont cacher des rouleaux dans le désert de Judée, qui vont être trouvés 2000 ans plus tard. C'est complètement fou que de s'imaginer que ces gens-là ont cru qu'il fallait sauver le bateau. Et on sauve le bateau, si on va naufrager, au moins que la bouteille à la mer puisse servir à quelque chose.
Et sauver le bateau, mais après la destruction du temple ou
déjà avant.
Déjà avant.
On voit déjà avant.
Déjà avant, il y a des personnes, des savants, des experts, des intellectuels qui voient se profiler l'épreuve suprême.
Oui.
Avec la fuite. Il y en a qui envisagent même la destruction du temple.
Ben oui, bien sûr.
Avant que ça ne se produise. Avant qu'il y ait la guerre.
Tout ça ne s'est pas fait en un jour.
Oui, certes, mais. Cette destruction du temple, elle n'a pas été, elle ne pouvait pas être prévisible. En fait, c'est la conséquence d'une révolte. Et Titus, Vespasien et Titus envoient leurs troupes. Bon, ça prend un certain temps. Mais cette réflexion sur comment sauvegarder l'avenir de la religion juive, parce qu'il y a une véritable menace, date de bien avant la destruction du temple. Donc il y a vraiment des gens qui ont une préscience en quelque sorte.
Mais bien,
comment est-elle alimentée?
Alors, ce n'est pas une préscience, c'est juste... comment je vais expliquer ça? Je vais vous le dire en termes peut-être modernes. C'est,
oui.
Ce sont des lanceurs d'alerte, d'une certaine manière. Ils ont pris les éléments politiques de l'époque et ils ont considéré que si on tirait la logique de ces éléments politiques, il ne pouvait pas être question de survivre dans un empire romain, que les Romains... Et comme on n'accepterait pas de se soumettre, les Romains iraient jusqu'au bout de cette destruction.
Il y aurait un affrontement.
Voilà.
Alors justement, pardonnez-moi, il y a beaucoup de questions à vous poser sur ce sujet, qui est un sujet compliqué quand on le regarde, en effet, notamment du studio de Radio Courtoisie en 2026. C'est un sujet compliqué, qui est clé, vous l'avez expliqué, qui est clé dans l'histoire de la religion juive, puisque c'est cette période historique qui va donner naissance au judaïsme rabbinique tel que vous venez de nous le présenter. Comment passe-t-on, avant la destruction du temple, il y a les Sadducéens qui sont ceux qui, les prêtres, ou qui sont ceux qui font le service du temple, en quelque sorte, les sacrifices, etc. Il y a tous les savants, les docteurs de la loi, parmi lesquels il y a les pharisiens, puis il y a encore d'autres aussi, d'autres courants, si l'on peut dire. Hein. Et la difficulté, c'est de... Alors, on comprend que les Sadducéens disparaissent parce que le temple disparaissant, les services du temple disparaissent automatiquement. Ça, on le comprend. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est comment passe-t-on des docteurs de la loi, des pharisiens, notamment parmi eux, aux rabbins qui vont donner naissance au judaïsme rabbinique. Ça, c'est une première question. Et puis, l'autre question aussi que je souhaitais vous poser, et c'est que vous nous expliquez qu'il y avait un certain nombre de personnes qui ont eu la préscience de l'avenir des judéens, un avenir terrible, des judéens qui seraient donc en quelque sorte chassés de Jérusalem, une terre salée, etc. La question, en fait, qui est difficile pour nous à comprendre, c'est que les Romains acceptaient légalement la religion juive, tout comme ils vont l'accepter après. Après, il y aura toute une diaspora juive, hein, dans une part très importante, hein, d'ailleurs, dans l'Empire romain qui va... Allez, déjà, il y avait déjà une première diaspora, bien sûr, hein, et on parlera de cette diaspora d'ailleurs, mais une deuxième diaspora en Afrique, etc. Et les Romains acceptent légalement l'existence de la religion juive, donc on a du mal à comprendre l'affrontement. L'affrontement, et on a du mal à comprendre qu'un certain nombre de savants, de docteurs de la loi, aient eu cette préscience d'un conflit inévitable et aboutissant à la disparition de... La double question, en fait. Hein.
Oui, c'est une question extrêmement complexe, mais c'est une question qui finalement trouve sa réponse dans une espèce de logique simple de l'époque. Tout d'abord, le roi de la Judée, c'est Dieu lui-même. Pour les Judéens, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu qui sauve les enfants d'Israël d'Égypte et qui a créé le monde. Et, au passage, bien sûr, il a créé le monde et il a créé les Romains. Mais, évidemment, dire ça à des Romains n'aurait pas grand sens. On ne comprendrait pas tout à fait de quoi l'on parle. Il y a donc déjà quelque chose qui est rédhibitoire dans le dialogue, si vous voulez. Le dialogue entre les deux est très difficile. Même si, à titre personnel, il y a des gens qui ont d'excellents rapports, des gens qui font des affaires avec les Romains, des Juifs qui font des Romains qui font des affaires avec des Juifs, jamais rien n'a été impossible entre les hommes. À partir du moment où l'on passe à la question de la souveraineté perdue une fois, écrasée par Nabucodonosor, les autorités juives avaient déjà perdu avec les Romains la royauté, puisque les Romains avaient mis en place un roi qui n'était pas légitime, qui était un Iduméen de Édom, vous savez, ce roi Hérode dont on parle souvent, qui n'est pas un roi juif, mais qui est nommé comme ça, comme un pis-aller, hein, local. Les Juifs n'ont aucune envie d'être gouvernés par... Hérode et sa dynastie, hérodienne, même si ce sont des cousins, à l'époque, localement, ce sont des cousins, mais ce ne sont pas des... ce n'est pas une tradition hébraïque, une tradition israélite, au sens où on entend la tradition de la Torah, si vous voulez. Donc, pour les rabbins de l'époque, qui n'étaient pas au départ des rabbins, les maîtres de l'époque, qui sont des figures, comment dire, représentatives de la morale et de l'éthique juive, avant d'être des docteurs, ce qu'on appelle des docteurs de la loi. Alors, s'ils sont doctes, oui, ils sont doctes, mais dans leur science. C'est-à-dire que ça n'est pas une qualité, bon, ils ne sont pas diplômés en mathématiques, mais ils connaissent leur tradition, ils savent les enseigner, et c'est à ce titre-là qu'ils s'appellent docteurs, qu'on les appelle docteurs. Mais en hébreu, docteur de la loi, ça ne veut rien dire. Il faut dire rav. Qu'on va retrouver d'ailleurs dans les évangiles. Hein. Jésus est appelé Rabouni, hein, n'oublions pas. Et le mot est resté dans sa strate, qui veut dire mon maître, hein, finalement. Il est resté dans son jus hébraïque. Donc à cette époque-là, tout concourt à l'opposition et à au caractère réfractaire de ces judéens à la présence des Romains. Et les Romains ne peuvent pas accepter. C'est un principe cardinal que, quand on parle de Pax Romana, c'est faire silence. Le royaume, l'Empire romain doit être silencieux vis-à-vis de Rome et toute cette périphérie conquise doit être absolument silencieuse. Sinon, elle est remise, si vous voulez, elle est réduite à néant. Et les rabbins savent cette chose-là, les premiers docteurs, ils savent très bien que l'opposition, qui est une opposition tout à la fois religieuse, mais une opposition aussi politique, ne donnera pas de compromis. Les rares compromis qu'il y a eu se sont terminés dans le sang, les révoltes se sont terminées dans le sang, enfin, on en a parlé à plusieurs reprises. Alors, même si c'est un peu avant, un peu après, c'est une période, si vous voulez, on n'est pas véritablement dans le chronologique absolu, mais on est dans toute cette ambiance qui fait que les Juifs s'étaient fait à l'idée que c'était impossible de se plier à la loi romaine et que comme ils étaient absolument... il était impossible d'envisager une victoire sur les Romains, parce qu'à un moment ou à un autre, il y aurait des vagues de légions qui arriveraient, même si on arrivait à en vaincre une, il y en aurait forcément une deuxième qui viendrait. Et donc, ils avaient compris par extrapolation, toute simple, par pure vision politique, que c'était terminé. Et c'est exactement ce que raconte, je crois que c'est important peut-être de rappeler ça, on en avait parlé un tout petit peu, mais au moment, le Talmud raconte une histoire, c'est une histoire, bien sûr, ce n'est pas, on ne sait pas si, une histoire, quand je dis une histoire, je veux dire qu'elle est largement, probablement romancée, mais elle dit quelque chose d'essentiel. Elle dit au moment où le siège se met devant Jérusalem, un homme et son oncle débattent. L'oncle, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est déjà rabbin, il est chef d'école, c'est un maître reconnu, et son neveu, c'est le chef de la garnison de Jérusalem. Et l'oncle lui dit « rends-toi aux Romains ». Et l'autre lui dit « mais hors de question de se rendre ». Vous voyez, c'est la même conception de Bar Korba, qui veut lutter jusqu'au dernier, quitte à être massacré ou quitte à être exterminé par les Romains, mais on ne se rendra pas. Vous rendez compte, Lee ? Et donc, il y a ce texte qui raconte que l'oncle et le neveu se déchirent sur cette question-là, et l'oncle dit, eh bien, puisque tu veux, tu resteras dans cette garnison, tu défendras le temple jusqu'au bout et tu mourras les armes à la main et le temple sera détruit dans tous les cas. Mais moi, je veux sortir de Jérusalem. Tout le monde le traite de traître. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, par une histoire rocambolesque, qui sort dans un cercueil de la ville avec quelques élèves. Bon, et au sortir de la ville, il va justement voir Vespasien et lui dit, il lui fait cette annonce. Je pense que c'est largement romancé, mais enfin, peu importe, il lui dit, ça y est, tu... Et il lui dit, tu es nommé roi, tu t'appelles roi et tu es empereur aujourd'hui. Il dit, mais tu m'offenses en disant que je suis roi puisque je ne le suis pas. Il lui dit, mais je viens d'apprendre que Rome t'avait nommé empereur et Vespasien ne l'aurait pas su. Alors il lui a dit, bon, mais si c'est vrai, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Il lui dit, eh bien, si c'est vrai, je veux que tu me donnes un petit village. Vous voyez, on est passé de la grande ville de Jérusalem, capitale du monde dans l'esprit des Juifs, voilà, avec son temple, avec son faste et tout ce qui s'y est passé comme histoire, on est passé d'une très grande ville à un tout petit village avec 4 maisons, et il lui dit, je veux que tu me donnes ce village-là pour créer une école, c'est-à-dire des enfants. Je vais remplacer des adultes combattants, je vais les remplacer par des élèves étudiants. Et là, on voit le symbole qui naît à ce moment-là, que le judaïsme a renoncé aux politiques, a renoncé à la violence, a renoncé à la guerre pour se consacrer à la survivance par l'éducation, par l'étude, par la persistance.
C'est la naissance du fameux centre Yavne. Hein,
ce village s'appelle Yavne.
Voilà,
exactement. Il s'appelle Yavne parce qu'en hébreu, Yavne veut dire... Il construira, c'est la forme future du verbe construire, il construira ou il reconstruira, Yavne. Et donc le village s'est appelé par anticipation.
Donc là nous sommes au premier siècle, Ben Zarkaï, c'était un pharisien, c'était un pharisien.
Oui. Alors je suis obligé de vous expliquer ce que ça veut dire pharisien.
Oui c'est ça, mais alors justement, comment passe-t-on de... Les pharisiens sont les héritiers du coup? Après la destruction.
Non, ce ne sont pas les héritiers.
Mais ce sont eux qui vont prendre la main.
Oui, mais pendant longtemps, si vous voulez, pendant longtemps, ça a été deux partis principaux, les Sadducéens et les pharisiens, qui se sont opposés. C'était des partis à la fois politiques, à la fois théologiques, parce que tout est mélangé. Vous savez, dans l'Israël de l'Antiquité, tout est mélangé. La religion, le politique, le pouvoir, le travail, tout est mélangé. Et donc, pharisiens et sadducéens s'opposent sur des grandes questions qui touchent à l'idée même que l'on a de la nation juive et de l'identité du peuple juif, mais ça touche également à des grands principes théologiques. Je n'en donnerai qu'un seul, les pharisiens croient à la résurrection des morts, quand les sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts.
Et pourtant, ils servaient le temple.
Et alors ?
C'est une différence qui n'est pas mineure, quand même.
Non, mais c'est...
Oui, imaginons que chez les chrétiens, il y en a qui croient à la résurrection et pas d'autres. Je pense que ça posera un problème de fond.
Oui, mais quel rapport avec le temple ? Le temple était fait pour ici-bas.
Mais c'est la même religion.
Oui, mais c'est ici-bas que les choses se passent. C'est-à-dire que le temple n'empêchait pas... je vais vous donner un exemple. Le Talmud dit, est-ce qu'un non-juif peut apporter un sacrifice au temple de Jérusalem ? C'est pas sa religion. C'est pas sa ville, c'est pas son temple, c'est pas son dieu. On devrait lui dire non.
Non, mais ce qui surprend, pardonnez-moi, Hervé Rébi, ce qui surprend quand même qu'on a d'une part les Sadducéens et d'autre part les pharisiens, qui partagent la même religion, les judéens dans tous les deux cas, vous nous expliquez que les uns croient en la résurrection et pas les autres. Il y a quand même une différence fondamentale.
Oui, mais c'est la même religion.
Du coup, on
n'a
pas l'impression que c'est la même religion.
C'est la même religion quand même. Oui, mais ça, il faut que vous compreniez les problèmes qui touchent à l'absence d'orthodoxie dans le judaïsme. La religion juive n'a pas de définition de l'orthodoxie. On est juif et on a le droit et la possibilité de le décliner sur tous les modes que l'on veut.
Pardonnez-moi, on va parler du Talmud, la création bien sûr, du Talmud, à partir du IIe siècle à peu près. Mais vous allez bien sûr nous expliquer ce qui se passe entre ce 1er et ce 2e siècle, là, comment on passe de Ben Zarkaï et de Yavne à la création du Talmud, parce que le Talmud, c'est vraiment le cœur de la culture, de l'identité juive, de la religion juive.
Alors, aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, c'est ça, nous sommes d'accord. Mais c'est tout l'héritage... du 1er siècle.
Vous l'avez dit.
C'est ça.
C'est le sauvetage.
Et donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre ce que c'est que le Talmud, et nous avons rentré grâce à vous dans le détail du Talmud.
Quand même, vous passez rapidement sur cette question.
Non mais vous allez en parler en détail.
Non mais sur cette question de la résurrection, de la non-résurrection.
Oui mais justement, ma question, pardonnez-moi Hervé Rémy,
Sachez qu'il y a un principe qui dans le judaïsme dit, même si quelqu'un récuse tel ou tel aspect du judaïsme, admis par d'autres, il n'en est pas moins juif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anathème, il n'y a pas non plus d'hérésie en judaïsme. Ça n'existe pas. Le seul hérétique, le pauvre,
c'est Spinoza. Que dit le Talmud, justement, sur la résurrection des morts?
Il dit, il faut discuter. L'ensemble est d'accord pour la résurrection, sauf que vous oubliez encore un problème essentiel. C'est que, sur ces questions-là, est né le christianisme. On en parlera une autre fois, mais le christianisme n'existe que parce qu'il y a résurrection.
Mais, tout à fait d'accord, mais voilà. Ça nous en parlons, mais je reviens justement à la religion juive. Alors ça, c'est très difficile à comprendre pour un chrétien, et c'est que le Talmud, vous allez nous parler du Talmud, 20 volumes, c'est extraordinaire cette œuvre, qui définit justement tout ce qui est important de la religion juive, si on a mis par écrit... On a mis par écrit toutes les interprétations des lois, etc. Mais vous allez en parler, justement, oui. C'est le but de l'émission. Mais alors moi, je suis complètement, pardonnez-moi, mais bouche bée, parce que c'est quelque chose qui est absolument fondamental, qui est la résurrection des morts. Est-ce qu'on croit ou pas à la résurrection des morts? Vous dites, ça se discute. Alors,
oui, c'est pas pour autant.
À quoi ça sert d'avoir 20, pardonnez-moi, je suis provocateur, je ne veux pas du tout critique, hein, mais c'est pour... Mais à quoi ça sert d'avoir 20 volumes sur la loi juive, sur une question fondamentale, vous répondez, ça se discute.
Non, mais quand je dis ça se discute, ça se discute.
Je suis un peu caricatural, pardonnez-moi, mais c'est très surprenant.
Je me suis mal exprimé. Ça se discute tout au long des 20 volumes, ou des 50 volumes.
Mais c'est quoi la conclusion, alors?
Mais il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion pour la simple raison que là, nous touchons aux éléments essentiels et quintessentiels de la foi. C'est-à-dire que ceux qui ne croient pas à la résurrection des morts, d'abord, ne sont pas moins juifs. N'en sont pas moins juifs. Est-ce que avec son pari, est-ce que Pascal a raison de faire un pari, alors que le pari, ça voudrait dire qu'il n'y croit pas vraiment, mais qu'il fait le pari parce qu'on a tout à gagner avec un pari. Mais,
il y a des dogmes très clairs dans la religion chrétienne, dans la religion catholique, et vous l'avez rappelé. Les chrétiens, c'est le Christ, c'est la résurrection des morts. Ouais, et là c'est quelque chose qui est un dogme.
Mais parce qu'il n'y a pas de dogme.
Et si vous ne croyez pas dans ce dogme, il n'y a aucun jugement de valeur. Mais vous n'adhérez pas à la religion chrétienne.
Enfin, c'est ce que je dis.
Voilà. Mais c'est pour ça que c'est très difficile.
Non, mais c'est pour ça que les juifs ne sont pas chrétiens.
Oui.
C'est pour ça que
mais ce que je veux dire, c'est que quand vous répondez, ça se discute.
Tout se discute.
Ça veut dire que nous, on comprend, il n'y a pas vraiment de dogme, pas vraiment de cœur, de foi, et on se pose la question, finalement, c'est quoi la religion juive, pardonnez-moi.
Je vais vous expliquer par un autre exemple, si vous voulez. Pour les juifs, la foi n'est pas première. Elle est aboutissement, et encore, si on y aboutit. C'est-à-dire qu'on peut passer une vie à s'interroger sur la foi, mais la foi n'est pas essentielle au départ.
Et qu'est-ce qui est essentiel, alors?
La question.
Il y a une différence entre foi et religion.
C'est pas parce que vous n'avez pas de réponse absolue que vous êtes dispensé de pratiquer, parce que n'oubliez pas que la religion juive est une religion de la pratique. C'est une pragmatique. Au sens grec. Ce n'est pas une contemplation, ce n'est pas une adoration, ce n'est pas un acte de foi, ce n'est pas un credo absolu, même si de temps en temps on a rajouté des credos chez les juifs aussi, on a rajouté des petits credos, mais c'est pas du tout ça. Le juif naît à partir du moment où il applique un geste, une mitzvah, ce qu'on appelle une mitzvah, un commandement, et où il applique un principe, si vous voulez, constructeur d'une identité personnelle et d'une identité collective. Donc il participe d'une construction individuelle et collective que l'on appelle les mitzvot. Après, la question de la foi viendra ou ne viendra pas, ce n'est pas important. Enfin, ça n'est pas obligatoire de dire « je crois ». je fais acte de foi. L'acte de foi peut être différé. C'est un principe conducteur.
On comprend ce que vos explications, bien sûr, comme toute religion, d'ailleurs. Hein, le fait qu'il y ait des dogmes ne vous empêche pas de vous interroger, c'est naturel.
Oui.
Mais il y a quand même une réponse qui est donnée, après vous adhériez ou pas. Et ce que je comprends, c'est que vous me dites que les 20 volumes du Talmud qu'on va évoquer en deuxième partie après la pause musicale posent la question durant tous ces 20 volumes sur la vie éternelle, la résurrection, etc., mais n'y répond pas. C'est ça qui est
il
difficile.
Il n'y répond pas de manière absolue.
Comment y répond-il alors ?
Je vais vous expliquer. Oui. D'abord parce qu'il y a la polémique judéo-chrétienne. Si on finit par répondre la résurrection existe absolument, alors il n'y a aucune raison de la récuser pour Jésus. Ben, le judaïsme est mort. Et je le dis de manière abrupte, bien
non,
entendu,
non, mais c'est,
mais
clair,
c'est,
ouais.
très, c'est fondamental de comprendre ça. Ensuite, il y aura toute une tendance des siècles de rabbinisme qui vont essayer de trouver une manière de présenter la validité de la résurrection des morts et la non-validité de la résurrection de Jésus. Vous comprenez ?
Et si on vous pose la question différemment, alors est-ce que, pour les Juifs, la vie éternelle existe ? On ne parle pas de résurrection des morts, on parle de vie éternelle.
On parle de la vie éternelle, oui, la vie éternelle existe.
Là, c'est clair, il y a une réponse qui est claire.
Oui,
d'accord.
Mais encore une fois, il y a des Juifs qui peuvent récuser.
D'accord. Mais dans le Talmud, on apporte une réponse sur la vie éternelle. On comprend mieux à ce moment-là.
Je vous donne juste une petite indication. Le terme vie en hébreu n'existe pas au singulier. Il n'existe pas au singulier. Le mot vie est un mot pluriel, chaim. C'est même un mot non seulement pluriel, mais un pluriel duel, ce qui veut dire deux vies. À chaque fois que je dis la vie, je dis deux vies. La quoi deux vies ? C'est-à-dire la vie d'ici et la vie future. Donc, c'est-à-dire la vie éternelle. Voilà. Donc il faut dire que ces choses s'inscrivent dans une approche aussi linguistique. C'est très important.
Hervé Rébi, avant que nous fassions une petite pause, parce qu'il faut que nous avancions. Il y a tellement de questions à vous poser.
On va y arriver.
Comment passe-t-on Ben Zarkaï est-il le premier rabbin et comment passe-t-on des pharisiens qui sont les survivants en quelque sorte, hein. Vous nous l'avez expliqué dans quelles circonstances, du siège et de la destruction de Jérusalem, avec cette ruse en quelque sorte de Ben Zarkaï. Comment passe-t-on de Ben Zarkaï, premier rabbin sans doute des pharisiens, Zakaï, au judaïsme rabbinique.
D'abord.
Et puis on fait la pause après.
Très simplement.
Écouter,
très simplement. Les temps. Zéro, c'est l'ère chrétienne. 70, c'est la destruction du temple. Commence à se constituer une diaspora, mais il y a encore des juifs qui restent encore, des judéens qui restent encore jusqu'à la fin du 3e à peu près siècle. Et donc, de zéro à 200, pour simplifier, de 0 à 200, on va passer de maître auto-consacré, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de titre, on va fédérer ces forces intellectuelles et on va faire, si vous voulez, une université avec délivrance d'un titre. Pour vous dire qui est le premier rabbin, personne n'en sait rien, on ne sait pas. Mais il y a un moment où on a pris l'habitude de dire à quelqu'un qui était savant, au lieu de lui dire, de l'appeler Yehuda, ou de l'appeler Yehoshua, ou de l'appeler Michael, on l'a appelé Rabbi. Comme on dirait docteur.
Mais ce titre-là est décerné par les écoles. Première, c'est Yavné, mais elle fleurit, j'imagine.
Oui, même Yavné ne peut pas être considéré véritablement comme la première école. Il y avait probablement, déjà dans la Galilée, il y avait beaucoup de centres, autour de Tibériade, au bord de la mer, du côté de Césarée, il y avait des endroits où il y avait une vie intellectuelle.
Avant la destruction du temple,
déjà avant. On voit Jésus venir à la synagogue de Kfar Nahum, qui va donner en français le Kfar Naum. il vient bien dans... Alors qu'à l'époque, il n'y a pas de synagogue constituée. On est avant la destruction du temple. Vous voyez, l'anticipation. On est plus tout à fait dans un système du temple, et encore pas encore, si vous voulez, dans un système synagogal au sens strict. Voilà. Donc après, ce que va faire Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est d'instaurer la valeur de l'étude et la valeur de la transmission pour viser le long terme de la survivance du peuple, et un autre rabbin va, lui va jouer le rôle de manager, si vous voulez, le rôle technique de la survivance de ces héritages-là, c'est Rabbi Yehuda Hanassi.
Le fameux Judas, le saint.
Qu'on appelle le saint, d'ailleurs très improprement, mais Rabbi Judas Hanassi, le président du Sanhédrin de l'époque. Attention, c'est pas le Sanhédrin d'avant.
Alors le Sanhédrin de cette époque, c'était quoi? C'était... La représentation.
Un conseil
représentait toutes les écoles, toutes les
synagogues. Un conseil de savants qui étaient cooptés, les uns étaient cooptés. Au départ, c'était par l'origine tribale, mais ça faisait des siècles qu'il n'y avait plus de nomination tribale puisque tout avait été détruit. Et donc, il y avait une nomination de gens qui étaient cooptés.
Donc, si on fait simple, sur un siècle à peu près se constitue ce judaïsme rabbinique. Progressivement, à partir des différentes écoles d'Yavneh, puis d'autres encore qui existaient déjà en Galilée, avec une coordination, une sorte de fédération qui aboutit à ce Sanhédrin, et c'est ainsi qu'on nomme Rabbi, les savants.
Rabbi, c'est constitué de la racine Rav, qui veut dire beaucoup,
c'est ça.
Ceux qui en savent beaucoup, et Rabbi, Bi, le I de la fin, le Yota, le yod de la fin veut dire « à moi ». C'est celui qui en sait beaucoup, à moi. C'est une relation interpersonnelle. Nous avons un rapport entre le maître et l'élève de manière extrêmement personnalisée, très personnalisée. Petit à petit, ça va devenir rabbin.
Donc on peut dire qu'à partir de 200 environ, on est dans ce judaïsme synagogal, ce judaïsme rabbinique, et celui qui va aboutir à ce qu'il est de nos jours.
Hein, et à ce moment-là, vers la fin des années 200, si vous voulez, on a la fin de ce qu'on va appeler... Alors, je vais introduire un autre mot dont on n'a pas parlé, c'est le mot Tanaïm, les Tanaïm. Les Tanaïm, c'est la première génération de la période rabbinique, si vous voulez. La première génération va s'éteindre, les Tanaïm, c'est-à-dire les maîtres fondateurs du rabbinisme, vont s'éteindre vers les années 200, c'est commode de dire les choses comme ça, avec Rabbi Yehuda Hanassi, et c'est eux qui vont fonder, sous l'emblème un peu iconique de Rabbi Yehuda Hanassi, qui vont fonder la Mishnah. Alors, je vais peut-être en parler après la pause.
Oui, je vous propose, c'est le moment pour faire effectivement une pause, écouter ce message de la radio, suivi d'une pause musicale, et puis on va parler de la Mishnah et du Talmud, qui est essentiel, qui est de la base, c'est le cœur de la religion juive rabbinique, et cette fois-ci, il faut que nous rentrions dans ce document, sinon vous allez me reprocher à la fin de l'émission.
Non, je ne vais
pas rentrer dans ce document. Vous avez, une pause musicale, je crois que vous avez choisi Dikken Erghan, je crois. Qu'est-ce que c'est
un chanteur que j'aime beaucoup, un chanteur belge, qui n'a rien à voir avec ni le judaïsme, ni quoi que ce soit, à ma connaissance, à mon avis, mais qui a écrit une très belle chanson qui emprunte ses accents à l'Europe de l'Est, de ces juifs d'Europe de l'Est, et dont la musique est extrêmement proche du klezmer, ce qu'on appelle le klezmer, avec l'utilisation de cette clarinette fondamentale dans les musiques d'Europe de l'Est. Donc je vous propose de l'écouter, c'est une chanson en français, mais c'est pour faire un clin d'œil sur peut-être l'universalité de ce genre de musique.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Les tchèques, comptent-ils, pensent à quelque chose, pensent-ils comme des cakes, pensent-ils rouge ou pensent-ils rose, ou pensent-ils leur plaît. Jolie dame dans le tram, jolie parapluie, êtes-vous déjà une madame ou bien une petite fille? À quoi pensent les tchèques quand ils pensent à quelque chose? Pensent-ils comme des tchèques? Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose? Ou pensent-ils leur plaît? Vieux monsieur aux yeux si bleus, vieil imperméable, est-ce que Prague est à vos voeux ou bien insupportable? À quoi pensent les tchèques quand ils pensent à quelque chose? Pensent-ils comme des tchèques? Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose? Ou pensent-ils leur plaît? Jeune garçon aux yeux si clairs, vas-tu à l'école? Vas-tu voir ton grand-père ou bois-tu son alcool?
Nous avons le plaisir de recevoir en cette deuxième partie d'émission Hervé Rébi, qui est président du Centre culturel juif Yavne de Bordeaux, et nous saisissons grâce à ses explications l'importance du nom Yavne, effectivement, qui est l'une des toutes premières écoles fondées par Ben Zakkaï juste avant la destruction du temple. Hervé Rébi nous a fait un rappel effectivement de cette période historique très, très complexe pour la Judée, qui, de la destruction du temple, de la destruction opérée par les Romains jusqu'à la transformation, en quelque sorte, de la religion des Judéens, je ne dis pas juifs, puisque c'est un terme anachronique d'ailleurs. J'aimerais bien que vous nous disiez à quel moment ça apparaît d'ailleurs, et qui se transforme en une religion donc rabbinique, avec effectivement comme cœur, comme base, comme fondement, la Mishnah et la Gemara qui vont fonder donc le Talmud. Alors nous vous écoutons. Nous avons un message, je le dis tout de suite, d'un auditeur, je vous remercie pour ce message, qui évoque une figure, une femme vaillante, Eshet Hayil, je ne sais pas si je prononce ça correctement.
Eshet Hayil.
Merci. Merci d'intervenir. Et donc, nous gardons ça pour une émission prochaine. Hein, nous gardons cette question d'auditeur. Voilà, parce que là, nous allons évoquer effectivement le Talmud, il faut quand même qu'on y passe un peu de temps.
Ouais.
Jusqu'à la fin de cette émission, en tout cas. Alors, nous vous écoutons.
Alors, à ce moment de l'histoire, le temple est détruit. Il s'agit de sauver, encore une fois, ce qui est sauvable. Pour l'ensemble de ses maîtres, la pérennité d'une présence juive en Judée n'est pas assurée. Elle n'est pas assurée. Les Romains sont en train de transformer la terre d'Israël, d'origine historique, sont en train de la transformer en terre stérile, c'est-à-dire où les habitants seront définitivement chassés, égaillés, ce qui va donner lieu à cette notion de galout en hébreu, en grec diaspora, c'est-à-dire cette espèce de dispersion qui va faire que les Juifs... Alors, certains juifs avaient déjà adopté un principe de dispersion volontaire. Il y avait beaucoup de juifs qui habitaient notamment à Alexandrie, mais déjà à cette époque-là, on trouve des juifs, y compris en Afrique du Nord, du côté des Berbères, dont je suis originaire de...
Allez, bon, et d'ailleurs, nous avons appris d'ailleurs, à travers... Nous avons reçu, pour un livre consacré à l'histoire de l'Algérie, ouais. Nous avions reçu l'ancien ambassadeur de France en Algérie, et qui expliquait effectivement dans son livre qu'il y avait une présence juive en Algérie très ancienne, notamment à travers des Berbères qui s'étaient convertis à la religion juive.
Absolument. Donc on sait très bien que dès cette époque-là, dès le 1er et 2e siècle, il y a migration déjà de juifs qui partent des deux côtés du pays d'Israël, les uns remontant vers l'Anatolie, la Turquie, la Bulgarie, enfin, qui remontent, et les autres repartent du côté plutôt du sud, vers l'Afrique du Nord, l'Espagne, bien sûr. Alors, il y a des témoignages absolument certains de l'implantation de communautés juives, y compris à Rome, c'est-à-dire dans le fief même de l'Empire romain qui avait détruit ce temple. Bon, la question de la nostalgie était en train de naître. Mais ce n'est pas qu'une question de nostalgie, c'est que le peuple juif avait de la suite dans les idées, et il a toujours considéré que la nostalgie n'était que le tremplin à la reconstruction nationale. C'est-à-dire que ce n'était pas une plainte que d'avoir perdu le temple ou d'avoir perdu le pays et sa souveraineté, mais que ça n'était que le moyen d'espérer, si vous voulez, la renaissance qui mettra 19 siècles à arriver, mais qui finira par arriver. Donc comme quoi on peut avoir de la suite dans les idées. La chose essentielle, donc, du point de vue de la Constitution, c'est qu'on est passé d'un univers qui était à la fois politique et religieux, pour faire simple, on était passé à l'absence de politique, on n'avait plus de politique, c'était fini, on n'avait plus que à se raccrocher à la dimension religieuse. À ce moment-là, s'opposaient deux grandes tendances, les Sadducéens, les Pharisiens, vous l'avez dit, les Sadducéens ont perdu, en perdant le temple, ils ont perdu beaucoup de choses. Mais il n'y avait pas que des prêtres du côté des Sadducéens. Il y avait chez les Sadducéens beaucoup de gens qui étaient relativement des bourgeois qui avaient pas mal d'argent, des gens qui avaient des affaires, des gens qui avaient des terres, c'est-à-dire un peu les riches, les nobles, entre guillemets, les nobles. Attention, ce sont des mots qui ont une connotation en français qui n'est pas tout à fait valable pour l'univers moyen-oriental de l'époque. Mais en tout cas, on peut dire certaines couches un peu bourgeoise d'Israël de l'époque. À ce moment-là, se constitue une volonté populaire de s'opposer aux prérogatives de ces prêtres, de ces tenants de la bourgeoisie, et qui reproche à ces bourgeois d'avoir été des traîtres, d'avoir été les supplétifs de Rome. Et donc les pharisiens vont naître sur une double connotation que leur nom continue de porter, pharisien, voulant dire, pouvant venir du verbe hébraïque parouche qui veut dire séparé, qui se sépare, les uns, ce qui est vrai historiquement, ils se sont séparés des autres, hein, ils ont fait rupture avec le consensus de l'époque politique, et puis pérouche qui veut dire interpréter. Et là, on a les deux aspects politiques des pharisiens. Un aspect de s'opposer à Rome et donc de se mettre en rupture, parouche, et d'un autre côté, pérouche, qui veut dire porteur d'interprétation. Les pharesh en hébreu voulant dire interpréter. Bon, il se trouve que les évangiles ont taillé des croupières aux pharisiens, les pauvres de l'époque. Et ils sont tous, à chaque fois qu'on dit pharisien, on dit hypocrite derrière. Donc, et ce mot hypocrite est resté comme une insulte absolument impossible jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, impossible à laver. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des amitiés judéo-chrétiennes pour essayer d'expliquer les mots. Car, en fait, l'entreprise de conservation des biens intellectuels, des textes et des attendus juridiques, de tout ce qui s'est fait pendant 1000 ans, 1200 ans dans ce pays-là, toute cette tendance-là a été mise dans un creuset qu'on a appelé la Mishnah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, à la manière, alors ça c'est un emprunt que, les, que probablement Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Juda, a fait à Aristote, il a emprunté la méthode de la classification. Et quelque chose qui était, les cinq livres de Moïse étaient des livres que vous connaissez, c'est-à-dire pseudo-historiques, pseudo ce que vous voulez, mais ce ne sont pas des, ce sont pas des livres par thème. Il n'y a pas des thèmes juridiques, il n'y a pas des thèmes de loi. Il y a, tout est un peu, enfin, il y a une logique interne quand on a, on veut bien accepter de rentrer dedans. Mais il y a une espèce de nébuleuse comme ça où toutes les lois sont agencées selon une logique qui paraît pas tout à fait évidente à première vue. Et qu'est-ce que fait Rabbi Yehuda Nassi? Il dit, il faut d'abord commencer par classifier, c'est-à-dire par ordonner, et il va créer la Mishnah sur le mode de six ordres, les six ordres de la Mishnah. Et ça, bien sûr, nous le devons à la manière avec laquelle les Grecs envisageaient la présentation d'un sujet.
Alors, quels sont ces six ordres? Parce qu'on n'est plus dans l'ordre chronologique.
Oui, non, pas, absolument alors, pas.
C'est ça, c'est vraiment un autre classement.
Absolument.
Ces six ordres, mais alors... Oui, comment ça a été défini, ces six ordres? Est-ce que c'est...
On a pris les 613 lois de la Torah, si vous voulez, les, toutes les lois de la Torah. On a dit, cette loi, elle relève de quoi?
D'accord.
Ça relève du juridique, ça relève du politique, ça relève de l'agricole, ça relève de l'économie. Et on a classé les choses par thème. Je vous donne les six thèmes en hébreu. Zraim, le premier ordre, Zraim veut dire les graines, mot à mot ça veut dire les graines, c'est-à-dire les lois agricoles. Toutes les lois agricoles, n'oubliez pas que le pays est un pays agricole, un pays de bergers et de cultivateurs. Donc c'était, c'est un des ordres les plus importants, c'est le terme, l'ordre, si vous voulez, donc de l'agriculture. Le deuxième ordre, c'est Moed. Moed, ça veut dire la fête, les convocations. Les convocations, donc dedans, il y a le Shabbat, il y a la Rosh Hashanah, il y a toutes les fêtes, si vous voulez.
Hein, la liturgie aussi?
Pas la liturgie.
Non.
La liturgie viendra en appoint lorsqu'on aura défini le cadre global, parce que...
D'accord.
Nous, alors, après, je vais vous dire quelque chose de la Mishnah, parce que la Mishnah, c'est... ce n'est pas un vademekom, c'est une structure extrêmement ramassée où il n'y a pas de oui, non. Il y a les principes de la discussion qui va arriver après. Si vous lisez un texte de Mishnah, un texte de Mishnah va dire on doit allumer les bougies à tel moment. Rabbi un tel pense que c'est avant la tombée de la nuit. Rabbi un tel pense que c'est un quart d'heure avant la tombée de la nuit, etc. La réponse n'est pas là. La réponse sera donnée par la discussion qui viendra.
Mais en tout cas, on allume les bougies.
Voilà, on allume les bougies.
Donc, bon, il y a un socle quand même.
Quand même.
Une borne.
Quand même. Après, vous allez voir que, parce que les Juifs, comme, quand ils n'ont rien à faire, ils coupent les cheveux en 18. Donc, ben, comme tout le monde, hein, on se pose des questions tout le temps. Le troisième ordre, c'est Nashim, les femmes. Bah oui, c'est un ordre très très important. Donc tout ce qui régit les mariages, les relations hommes-femmes, les divorces, tout ce que vous voulez, voilà. Ce sont des traités qui constituent le grand ordre des femmes, des relations avec les femmes. Nézikin, quatrième ordre, ce sont les lois qui régissent les dommages. Alors là, c'est les dommages de tout ce qui concerne les relations sociales, les relations dans le travail, les intérêts, les contrats, tout ça, ça se trouve dans l'ordre des dommages. Le cinquième ordre, c'est l'ordre de Kodashim, c'est-à-dire un ordre qui compile tout ce qui a trait au sacrifice. Alors vous allez me dire, mais on part en diaspora, on n'a plus de temple, qu'est-ce qu'on a à faire? Oui, mais dans la loi écrite, dans la Torah, il y a tout un corpus qui nous est expliqué. Donc, à partir du moment où on n'a plus le lieu, on ne peut plus le réaliser, mais il faut continuer de l'étudier. C'est-à-dire, il faut continuer de voir sa justification, sa cohérence, parce que tout ça, ça n'est que de la gymnastique intellectuelle, bien entendu. Donc cet ordre-là, qui concerne les sacrifices n'est plus étudié pour l'application, mais est étudié pour lui-même, pour ce qu'il représente dans l'ordre intellectuel. Et le sixième ordre, Taharot, c'est un ordre qui concerne tout ce qui a trait à pureté-impureté. Voilà, c'est-à-dire le kasher, l'acceptable, le non acceptable, la séparation entre le lait et la viande, etc. Tout ce qui concerne tous ces grands sujets qui concernent la pureté des corps, la pureté des âmes également. Donc ça, c'est un principe très très important dans le judaïsme. Vous savez que la question notamment que l'on retrouve dans le christianisme naissant, qu'on appelle le baptême. Le baptême, c'est un geste de pureté, de purification, et de purification physique, et qui induit également la purification psychique. Et donc on a ici six ordres qui compilent d'une autre manière, qui agencent selon une logique qui est propre à la Mishnah, une logique quand même, qui agencent toutes sortes de lois, qui se trouve pêle-mêle dans la Torah et qui se trouve classifié dans la Mishnah. Maintenant, le travail ne fait que commencer.
Pardonnez-moi, ces lois de la Torah qui sont donc réparties de manière différente, plus chronologique, etc., ce sont des lois qui sont toutes écrites déjà, ou il y a un certain nombre de lois qui ne sont non écrites?
Non, c'est-à-dire la manière avec laquelle ils ont été inscrits dans la Mishnah, c'est une manière de réécrire ce qui a été écrit.
Oui.
Donc, sinon, ça ne sert à rien.
C'est déjà écrit dans ce que nous on appelle l'Ancien Testament.
Oui, voilà, c'est ça. Dans les cinq livres de Moïse, qu'on appelle le Pentateuque.
C'est ça, le Pentateuque, oui.
Pentateuque en grec.
Donc c'est réécrit, reclassé. Mais dans quel objectif? Puisqu'il y avait déjà un écrit de la Torah, pourquoi reclasser? Pourquoi réécrire? Quel est l'objectif de Judas?
Pour se consacrer à la formation des esprits dans le système d'un ordre, d'un ordonnancement de la pensée. Et pas simplement dans l'ordre de la répétition. Parce que quand vous lisez le Pentateuch, vous n'avez pas fini de lire un verset, que le verset d'après vous pose d'autres problématiques, et vous, il n'y a pas dans le même chapitre,
en quelque sorte,
voilà, exactement.
Pour les rendre plus compréhensibles.
Bien sûr, mais en même temps, on ne perd pas de vue ce qui est écrit.
Oui.
C'est-à-dire que pendant plus de 1000 ans, la règle, c'était Torah Shebichtav, c'est-à-dire la loi écrite, et à ce moment-là, on prend, Rabbi Yehuda HaNassi a transgressé, on peut lire de temps en temps chez certains auteurs, qu'il aurait été interdit d'écrire la loi orale. Ben non, il n'a jamais été interdit, il n'y a aucun texte qui affirme l'interdiction. Mais lui a considéré que, pourquoi n'écrivait-on pas, d'ailleurs, les discussions relatives à la loi? On ne les écrivait pas pour stimuler justement les échanges verbaux, pour ne pas que ça soit enfermé dans une discussion, parce que à partir du moment où vous écrivez une réponse, elle devient pratiquement fermeture. Ou alors on est obligé de citer l'auteur en disant « cet auteur-là pense que c'est comme ça, mais moi, si je pense différemment, je suis obligé de réécrire les choses différemment ». Donc, pendant longtemps, c'était la loi orale qui était débattue.
Donc ça, c'est simplement le début, en quelque sorte, de la création de la Mishnah.
Oui.
On fait donc cette répartition, mais après, on va commenter.
En parallèle, autour de Rabbi Yehuda HaNassi, continuaient d'exister les discussions.
Oui.
Les discussions n'ont jamais...
Il n'est pas seul à avoir écrit cette Mishnah. Tout un ensemble de...
Oui, bien sûr.
Mais tout se passe... Où était-il basé?
À Jérusalem.
Donc là, on est à Jérusalem.
Après la destruction du Temple. Après, il y a encore une grande partie des maîtres qui sont encore sur place.
Ils pouvaient encore résider sur place.
Oui, 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 ils n'ont pas été chassés manu militari tout de suite, hein, mais
ils étaient sous occupation. On était en 200, là.
Oui.
Et là, en 200, il y a encore des juifs qui sont à Jérusalem.
Entre 122 et 200, si vous voulez, il y a une période où les gens sont encore présents. Puis ensuite, ils vont s'égailler, surtout à Babylone.
Mais
surtout...
la Mishnah, c'est d'abord Jérusalem.
Oui.
C'est là où elle a été écrite.
Oui, oui. D'ailleurs, elle est écrite en hébreu. Hein. Elle est écrite dans la langue des ancêtres. La langue
Mais c'est
hébraïque.
Le début de la Mishnah. Ça va s'étaler sur combien de temps?
L'écriture de la Mishnah?
Oui.
Soit pas grande, si, une cinquantaine d'années, mais grosso modo, c'est une cinquantaine d'années. C'est la vie entière de Rabbi Yehuda Hanassi qui est consacrée à l'écriture de la Mishnah. Mais ce qui est important maintenant, c'est de voir comment va se développer le prolongement de la Mishnah. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend une Mishnah, on va commencer la discussion à travers l'espace, c'est-à-dire d'une école à une autre, et à travers le temps. D'une génération à une autre génération, à une autre et une autre, jusqu'à aujourd'hui. Le Talmud, qui est considéré par la Mishnah et la Gemara, est un texte infini, qui n'est pas terminé.
Et pourtant, j'ai lu dans un document que c'était fini au 5e siècle.
Oui, mais non, ça, c'est une vision européenne des choses. C'est comme la symphonie inachevée, si vous voulez.
Alors, Hervé Rémy, vous allez nous expliquer tout ça après la pause musicale. J'aimerais bien quand même qu'on écoute. Alors, on est un peu pris par le temps, c'est vrai qu'il nous reste à peine 10 minutes, 9 minutes, mais il y a une pause musicale que j'aimerais bien que nous écoutions. C'est vous qui l'avez bien sûr apportée et proposée. C'est une chorale israélo-palestinienne.
Oui, c'est une chorale qui est constituée de femmes israéliennes et palestiniennes et qui chantent des chants traditionnels hébraïques et des chants traditionnels arabes ou palestiniens locaux. J'ai choisi de vous faire entendre justement un chant, alors originellement qui est issu d'une poésie hébraïque que l'on chante le soir de Pâques, de Pessah, mais qui a la particularité d'être chanté dans les deux langues, et les six choristes, ou enfin elles sont six ou huit, je ne sais plus, je ne me souviens plus, chantent indistinctement en hébreu et en arabe, en alternant les strophes. Et donc c'est très, très intéressant, c'est un geste de proximité qui est intéressant à entendre, ça n'a aucune prétention particulière que de se faire l'écho de cette proximité.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons notre conversation avec Hervé Rémy. Nous en sommes rendus à un moment clé, en effet, de l'évolution de la religion judéenne. C'est la création, vers 200, de la Mishnah. Hervé Rémy nous a expliqué ce que c'est que la Mishnah. C'est le classement, en quelque sorte, de toutes les lois de la Torah, selon une configuration particulière qui va justement durer jusqu'à notre époque. Nous avons un message aussi d'un auditeur qui évoque l'atonisme, le culte d'Aton instauré par le pharaon Akhenaton et le judaïsme. Eh bien, cher auditeur, merci pour votre message, votre question. Nous la conservons pour y répondre à l'occasion d'une autre émission. Hervé Rémy, la Mishnah.
Oui. Alors, la Mishnah finit par être rédigée, compilée. On a bien compris que c'était la classification selon six ordres et selon des thématiques qui s'ordonnaient dans les six ordres et qui, finalement, couvraient l'ensemble des lois de la Torah, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la loi écrite. pendant tout le temps de la vie de la loi écrite, les discussions entre les judéens, qui n'étaient pas forcément des docteurs, mais tout le monde s'interrogeait sur la manière avec laquelle il fallait pratiquer la cacheroute, le shabbat, les fêtes de Pâques, comment fabriquer la matzah, c'est-à-dire le pain azim. Il y avait des questions pratiques qui se posaient, et donc qui ne faisaient pas partie, ça ne faisait pas partie de la Bible de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne donnait pas des détails sur la manière avec laquelle on devait fabriquer tel ou tel. La Mishnah est venue et a commencé à classifier par thème en disant, bon, alors ce thème-là, on va étudier dans l'ensemble des perspectives, la fête de Pessah, par exemple, la fête de Pâques. Et donc, on va étudier point par point tout ce que constituent les éléments rituels de la fête de Pessah. Vient ensuite la période où on va... En dehors de la Mishnah, on va considérer que la Mishnah n'a donné que des grands titres, va donner des chapeaux à des discussions, et que ces discussions vont pouvoir être développées, je le disais, dans l'espace, c'est-à-dire pendant tout ce temps où les rabbins et les judéens habitaient ou en Israël, ou à Babylone, ou encore à Éphèse et dans d'autres endroits, les rabbins localement, les uns et les autres, discutaient horizontalement. Puis ensuite est venue les générations qui se sont suivies. On a dit, qu'est-ce qu'on fait avec la transmission? C'est-à-dire que, est-ce que les réponses qu'on a données à notre époque vont être acceptées par nos enfants, par nos petits-enfants? Donc était née la question de la transmission, non plus horizontale, mais de la transmission verticale. Cette transmission verticale était le moment où l'idée même du Talmud va germer. C'est ce qu'on appelle la Gemara, c'est-à-dire ne pas en finir avec les réponses. Réponses ne sont toujours que provisoires.
Alors la Gemara, c'est la suite, bien sûr, à la Mishnah. Mais à quel moment on pose le crayon, on dit la Mishnah, c'est clos?
On le dit à un moment, grosso modo, c'est en 200, à peu près
en 200. Là, c'est vraiment ce que vous avez expliqué.
C'est la fin, pardon, ça correspond, parce que vous aimez beaucoup les dates, je sais, mais je ne peux pas trop vous en donner, mais je vous donne des indications. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Rabbi Yehuda Hanassi est mort, on a considéré que, bon, ça va, on a le corpus et on ne va pas se substituer à lui.
Et c'est là où on passe à la Guémara. Voilà. C'est ça. Mais alors, j'avais une question à vous poser, parce que vous parlez d'horizontalité, de verticalité, verticalité de la transmission, et là, entre en compte la Guémara, ça sera ma dernière question d'ailleurs, Hervé Rémy, mais vous reviendrez, bien sûr, pour poursuivre cette histoire. Vous avez parlé d'Éphèse, vous avez parlé d'Alexandrie, vous avez parlé de Babylone, bien sûr, où là, il y a un centre extrêmement connu. Comment c'est coordonné? Parce que chacun réfléchit, chacun met en ordre, chacun classe, chacun interprète.
Mais en l'absence de WhatsApp, en l'absence d'Internet, chacun a constitué son corpus de réflexion.
Mais comment on arrive à la Mishnah, une Mishnah unifiée?
Non, la Mishnah, ça y est, c'est fait. C'est autour de Rabbi Yehuda Hanassi, du creuset d'Israël de l'époque, dans le creuset de la Judée.
Donc ça, c'est fait. D'accord, ça, c'est fait.
Voilà, c'est fait.
Il faut le comprendre.
C'est acté.
Début du 3e siècle. La Mishnah, c'est terminé.
Voilà.
C'est, nous, on l'appelle Judas le Saint, parce que c'est facile à prononcer. C'est lui qui a fait cette œuvre avec un certain nombre de personnes autour de lui. Et ça, c'est reconnu par tout le monde.
Tout le monde.
Y compris à Babylone, etc.
Tout le monde. Tous prendre, dans tous les endroits où on se trouve, on prend la Mishnah et on commence à la décortiquer selon les lieux.
Alors Hervé Rébi, lorsqu'on parle du Talmud de Jérusalem, Talmud de Babylone, etc., c'est la Gemara en fait qui va différer. Et donc ça sera l'objet, si vous l'acceptez, je l'espère, vous reviendrez pour nous parler en effet de la Gemara. Merci beaucoup à vous Hervé Rébi, je vous souhaite un très très
merci
bon été.
Vous.
Merci à Stéphane à la technique, merci à Laurent au standard, merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Très bon dimanche soir, et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de vous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 26 juillet 2026, de 18h à 21h, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.